Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma joie et ma justice. Oh Seigneur.
Bonsoir à vous tous, auditrices et auditeurs de cette fréquence. Bienvenue à l'heure de cette émission qui se propose de prendre un cantique et de l'étudier à la loupe de la parole de Dieu. Et cet après-midi, nous allons remonter au début de cette chaîne et nous allons étudier un chant de la famille Harbour qui est intitulé « Rends-moi triomphant » que je vous laisse dès à présent écouter. chant qui sera étudié dans l'émission de ce jour est constitué de 4 couplets et d'un refrain. Nous allons prendre tout à l'heure contact avec les paroles de ce cantique avec notre bien-aimé frère L'autre Laurent. L'autre Laurent, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Alors, peux-tu nous donner les paroles de ce cantique?
D'accord. Premier couplet. Seigneur, je ne comprends pas, mais je m'incline devant ce mystère où se perd la raison. Je crois en tes bontés, ta sagesse divine. Je comprendrai un jour dans ta maison. Deuxième couplet. Tu n'es pas sourd aux cris de l'âme en peine. Ton silence n'est pas indifférent. Pour un cœur angoissé, ta réponse est certaine, même quand elle n'est pas ce qu'il attend. Troisième couplet. Seigneur, dans mon épreuve, rends-moi triomphant. Je sais que tu veux le bien de ton enfant. Quatrième couplet. Ta voix n'est pas celle où mon cœur me pousse. Ton plan n'est pas mon plan, je le crois. Pour que ta volonté me paraisse plus douce, je viens contempler l'amour de la croix. Le refrain dit ceci. Dans mon épreuve, rends-moi triomphant. Dans mon épreuve, rends-moi triomphant. Sans tout comprendre, à tes pieds, je m'incline.
Très bien. Le chant est-il une composition de la famille Harbour ou bien cela nous provient d'un autre auteur?
Bon, quand je considère la collection de leur album qui s'étend sur 1985 à 1992, compilation sous forme de CD, là sur les 21 chansons ou le 21 morceau, au 15e il est dit « À tes pieds, je m'incline ». Ça veut dire que la chanson a ce titre également, « À tes pieds, je m'incline », puisque c'est le dernier vers là du refrain. À tes pieds, je m'incline. D'accord.
Ok. D'accord. Là, on va y aller. On va réécouter le chant. Et tout à l'heure, on passera aux commentaires au travers des Saintes Écritures. On va voir ce qu'est le message qui est véhiculé par ce cantique. Mais en attendant, je vous laisse écouter la famille Harbour. À tes pieds, je m'incline. Ou bien, rends-moi triomphant. Le chant est le récit d'un homme éprouvé qui tout au long de celui-ci s'adresse à Dieu. Alors, Dieu, que lui dit-il, l'autre Laurent, dans la première strophe? Que dit-il à Dieu dans la première strophe?
Bien, là, dans ce couplet, l'homme avoue son incompréhension, son ignorance de la situation, mais sa foi dans la bonté de l'Éternel, dans sa sagesse divine, avec l'idée qu'un jour il comprendrait. D'accord? Donc là, comprenons ceci, l'homme naturel fonctionne fonctionne à partir de son âme. D'accord? C'est-à-dire le composant de la pensée, des émotions, des sentiments, de la volonté, de l'intellect. C'est à partir de là qu'il analyse les événements, les situations qui se produisent dans son environnement ambiant. Et quand analyse a été faite, conclusion a été obtenue, alors l'homme prend la décision sur la base de son analyse. Ça, c'est comme cela que fonctionne l'homme naturel. Mais lorsque une situation survient et la capacité intellectuelle de l'homme n'arrive pas à cerner la portée de l'événement, l'homme est désorienté. D'accord? Il est confus. Pour lui, c'est un mystère. Alors, en ce moment, il aura besoin d'un autre moyen pour appréhender la situation. Donc, ici, dans ce cas de figure, l'auteur dit clairement, je ne comprends pas.
Mais il s'incline.
Oui, je m'incline. Il s'incline parce que là, au début, il dit Seigneur. Ça veut dire, c'est un croyant. Il a fait de Jésus non seulement son sauveur, mais également son Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur a le dernier mot dans toutes les circonstances de sa vie. Et que, aussi longtemps que foncièrement lui-même ne vit pas dans le péché, lorsqu'une situation survient dans sa vie et qu'il a épuisé toutes les ressources connues et que la situation ne change pas, là, l'auteur apprend à s'incliner en acceptant ne pas comprendre, mais en mettant sa foi en la bonté, en la sagesse divine. Et lui dit, un jour, je comprendrai. D'accord? Et nous devons comprendre que l'homme et Dieu ne sont pas au même diapason. L'homme est un être fini, limité. D'accord? Dieu est esprit. Donc, la façon de voir d'un être spirituel est différente de la façon de voir d'un être naturel, charnel, animal. Dans Isaïe 55, verset 6, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Là, nous voyons comment Dieu fonctionne. Il donne l'occasion à l'homme de se repentir. Et Dieu est disposé à lui venir en aide. Maintenant, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. D'accord? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées en tant qu'être humain. Et là, quand on se pose cette question, je me suis arrêté hier pour me dire, si Dieu déclare que lui, ses pensées à lui là, sont différentes de nos pensées, combien grande doit être notre crainte lorsque nous supposons que nos pensées que nous avons, en agissant au nom de Dieu, que c'est les pensées de Dieu. C'était une réflexion que je m'étais faite hier. L'Éternel déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées. En d'autres termes, ne prenez pas vos pensées comme étant mes pensées. Pour avoir les pensées de Dieu, il faut que ce soit par révélation. Il faut que Dieu nous ait révélé sa pensée. C'est pour cela que Paul dira que nous avons la pensée de Christ. Aujourd'hui, c'est un verset que les gens peuvent citer en disant, oui, nous avons la pensée de Christ. Non. Un apôtre enseigne par révélation et par expérience. Quelqu'un peut citer le verset en disant, nous avons la pensée de Christ. Mais est-ce qu'il a la pensée de Christ? Est-ce qu'il expérimente ce qu'on appelle la pensée de Christ? Est-ce qu'il est dans l'attitude que Christ a été, dans laquelle il a été quand il a marché sur cette terre, en se soumettant à son Père, en bien ou en mal? Quoi que ce soit qui arrive, il était disposé à se soumettre pour pouvoir connaître la pensée du Père pour chaque événement de la vie. Donc il dit, et vos voix ne sont pas mes voix. Ici là, quand un serviteur de Dieu lit ça, il doit pouvoir se dire, n'y a-t-il pas eu des moments où j'ai pris mes propres voix comme étant les voix de Dieu, comme étant ce que Dieu veut, alors que c'est en réalité mon agenda secret que je suis en train de mettre en œuvre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Maintenant, accepter ne pas comprendre, ne pas savoir, et pourtant faire confiance au Seigneur, c'est cela même la maturité chrétienne. Quelqu'un a dit, lorsque dans une situation tu ne discernes pas la main de Dieu, c'est-à-dire son œuvre, sa puissance, il faut discerner son amour. Ce que Dieu permet qui arrive là, c'est par amour qui le permet. D'accord? Et n'oubliez pas, psaume 145, verset 17, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Donc, quand on prend tout ce sujet-là, aujourd'hui, avec le type de christianisme qu'on nous offre, vous pensez que les gens sont prêts à être éprouvés par Dieu aujourd'hui? Non. Lorsqu'ils sont contrariés, ils commencent par prier tous azimuts, et c'est les démons qu'on chasse, alors que dans certains cas, même, c'était même pas les démons. C'est une épreuve. Aujourd'hui, là, qui enseigne aux chrétiens à discerner une épreuve d'une tentation, d'une attaque? Non. On a pris tout, et quand quelque chose est contraire, quand le vent est contraire, on dit c'est le diable, et dans tous les temps, on commence pas à crier, et on est là. D'accord? Et nous sommes dans une situation où nous sommes en train de faire de vélos de chambre. Vous voyez les vélos que les Blancs ont fabriqués là? Tu es dessus, hein? C'est toujours un vélo. Mais quand toi tu fais tout là, tu ne vas nulle part. Tu es juste sur place en train de... C'est ça la situation dans laquelle on a mis l'église pour beaucoup de gens qui passent leur temps à ne voir le diable. Partout, c'est le diable seulement ils voient. Donc Dieu ne peut plus les tester. Dieu ne peut plus les éprouver. Parce que tout ce qui vient, qui est contraire, c'est le diable. C'est pour cela que les gens font des années dans les dénominations, mais ils ne grandissent pas en Christ. Parce que l'épreuve fait partie de l'appel que nous avons reçu. Ça fait partie de ce à quoi nous avons été appelés. Donc ici, l'auteur, tu vas voir qu'il est en train de s'exprimer, de parler à Dieu.
Oui.
D'accord? Oui. De bout en bout, il sera en train de parler à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est au travers de l'épreuve que nous prenons même conscience de certains faits que nous avions peut-être par le passé banalisés. Oui. Maintenant là, les choses deviennent claires et nous parvenons au point où nous sommes en train de dire à Dieu, je capitule, je fais haut les mains, comme tu veux. C'est là où nous apprenons à conjuguer ce verbe-là. Seigneur, que ta volonté soit faite.
Très bien.
Dans ma vie.
Dans la première strophe, l'auteur ou le compositeur est éprouvé,
mm-hmm.
il ne comprend pas ce qu'il vit,
mm-hmm.
et il s'incline mm-hmm. devant ce mystère. Là, mm-hmm. c'est la première strophe.
Oui.
On va voir maintenant ce qui est dit dans le refrain,
mm-hmm.
et on fera également le commentaire de cette partie de la chanson que nous commentons en ce jour.
Devant un mystère.
Le refrain est l'expression de la requête de l'homme éprouvé. Voilà ce qu'il dit dans le refrain. Dans mon épreuve, rends-moi triomphant. Dans mon épreuve, rends-moi triomphant. Sans tout comprendre, à tes pieds, je m'incline. Que faut-il en dire?
Mais ici, vous remarquerez que le terme ne demande pas que Dieu mette fin à son épreuve.
Oui, c'est ça. J'allais poser la question. Mm-hmm. Heureusement que tu donnes déjà la réponse. Mm-hmm. Et pourquoi il ne demande pas la fin de ses épreuves?
Parce qu'elle a fini par comprendre, la personne en question ou bien l'auteur a fini par comprendre la portée de l'épreuve.
Ah.
L'épreuve est tout à fait normale pour le chrétien.
D'abord, l'autre Laurent, s'il te plaît, ça veut dire qu'il a identifié que c'est une épreuve, que ce n'est pas une tentation.
Non, que ce n'est pas une tentation, okay. Ce n'est pas non plus une attaque démoniaque.
Et là, il a examiné sa vie,
mm-hmm.
Il a compris qu'il n'a pas péché contre Dieu,
mm-hmm.
Et ce qui lui vient là, ça ne peut être que de Dieu.
Oui.
Ça, c'est un exercice qu'il a eu à faire en amont.
Oui.
Très bien, maintenant, il comprend que il ne demande pas la fin de l'épreuve.
Mm-hmm.
Et il demande alors l'épreuve de continuer.
Oui, il veut que ce pourquoi l'épreuve est intervenue dans sa vie, que le résultat soit obtenu. Puisqu'il doit coopérer.
C'est pas facile, hein.
Oui, ceux qui nous écoutent maintenant penseront que nous, on a été vaccinés contre les épreuves. Nous, là, on est de plein pied dedans. Ça fait des années. Donc, ici, l'épreuve participe à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix dans notre homme intérieur, là. Dans ce qu'on appelle le moi. La croix est un instrument de mort, mais elle n'apporte pas une mort instantanée. Donc, lorsque vous vous soumettez à la Seigneurie de Christ, la croix doit maintenant briser ce moi-là, désarmer le moi, pour qu'à chaque fois que l'Esprit de Christ veut s'exprimer, veut agir au travers de vous, qu'il n'y ait pas d'interférence venant de votre ego ou de notre ego. D'accord? Donc, la croix joue ce rôle-là dans notre vie. Ça, on appelle aussi le brisement. Donc là, l'objectif, en fin de compte, c'est notre conformité à l'image de Christ. Donc, il va y avoir un travail que Dieu va faire dans notre caractère, dans notre caractère. Et la croix va révéler, ou l'épreuve va révéler et exposer notre vrai état. Une épreuve, une situation que le Seigneur permet, qui survient, qui nous permet nous-mêmes de nous rendre compte de où nous en sommes. Quand Covid était venu là, nous tous on a été testés, non? Je sais qu'aujourd'hui, chacun maintenant avec le recul saura où il en était par rapport à sa foi. Parce qu'en amont, peut-être qu'on pensait qu'on était... Mais quelques instants seulement, certains ont été ébranlés. D'accord? Donc, là, ça révèle notre vrai état. C'est aussi un moyen par lequel Dieu nous permet d'être plus féconds.
De porter beaucoup plus de fruits.
Plus de fruits.
Et ça devient une expérience qu'on a vécue.
Oui, bien sûr.
Et on peut rendre témoignage.
Non seulement le témoignage, sur le plan spirituel, c'est comme un badge d'honneur que vous portez. Donc, quand vous lisez les épîtres de Paul, Paul a été un des apôtres les plus denses dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a écrit. Et cela est en rapport avec tout ce qui lui était arrivé en tant que disciple de Christ d'abord. D'accord? Quand vous comprenez, faites en 2 Corinthiens, la compilation des épreuves de Paul, alors vous comprenez tout à fait pourquoi il a cette maîtrise-là, de la profondeur de l'œuvre que Christ fait dans l'homme qui s'est soumis à lui. Donc si quelqu'un n'a pas été éprouvé, il sera léger. Il connaîtra les versets, hein? Il va citer les versets, il va prêcher dessus, mais ça n'aura pas de poids. Parce qu'il faut que le brisement intervienne pour que la présence de Dieu là puisse sortir plus librement. D'accord? Donc ceux qui ont été plus éprouvés sont plus utiles dans le royaume. Ceux qui ne l'ont pas été, ils peuvent connaître les choses intellectuellement.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas connu les épreuves, ou bien ils ont...
Il y a des gens qui esquivent, hein.
Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Ils esquivent les épreuves. Et ils écourtent le processus.
Oui, c'est d'eux que le prophète Osée va parler, hein, dans Osée chapitre 7, verset 8, il dit, Éphraïm se mêle parmi les peuples, Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Tu vois, quand il est à moitié cuit, on ne peut pas consommer.
Oui, oui.
D'accord. Donc il y a des gens comme ça qui se précipitent dans l'œuvre, qui recherchent la popularité. Mais une fois qu'ils sont là-dedans, pas leur vie là, vous allez voir qu'ils vont traîner des casseroles, il y a des scandales, des choses qu'ils vont faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé à Dieu le temps de travailler leur caractère. Ils pensent que Dieu est dans la précipitation. Non, c'est un roi. En tant que roi, il ne se précipite pas. Il va à un pas assuré. Et quand il prend une vie, il prend le temps de travailler cette vie avant de l'exposer. Il y a plein de gens qui sont exposés aujourd'hui. De la même façon, ce sera dangereux pour un responsable d'exposer un jeune homme, une jeune fille, parce que l'Écriture dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Quand vous exposez des gens qui n'ont pas été mûris par l'œuvre de la croix dans leur vie, vous allez voir quelques temps après, c'est comme un feu de brousse. Ce sera des scandales après, et vous serez étonnés. Parce que vous-même qui les avez exposés, vous n'avez pas consulté l'Éternel avant de les exposer. Donc, c'est important. Une vie de disciple non éprouvée ne servira pas à grand-chose dans le royaume. Et elle finira par devenir insipide, occasionnant des scandales, et sa popularité sera plutôt une destruction pour sa vie. Donc, une telle personne ne peut pas exercer l'autorité de Christ. Celui qui n'est pas sous l'autorité de Christ ne peut pas exercer l'autorité en son nom. Il faut que ce soit clair. Vous voyez, quand vous prenez la vie de Joseph, vous allez voir la même chose dans la vie de Joseph. Psaume 105, verset 18. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé.
Quand il a été mis en prison par Potiphar.
Bien sûr. Ce qui avait été annoncé lui avait été révélé par l'Esprit, qu'il va devenir quelqu'un de grand. D'accord? Ah, mais avant qu'il n'arrive là, il faut travailler son caractère. Donc, il a été injustement accusé. Quand il va être en prison, en tant qu'être humain normal, il va penser, ah, au moins si je m'étais laissé à cette femme-là, peut-être que je ne serais pas ici. Donc, il y aura des périls. Il va penser, retourner la situation dans tous les sens possibles, jusqu'à ce qu'un juge dise, ok, Dieu, si c'est ce que tu veux. Parce que l'Écriture a dit, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Quand la parole a fini de l'éprouver et que Dieu a vu que, ah, son caractère là, c'est bon. Maintenant, il est prêt. Le même jour, on l'a fait sortir. Donc, il y a plein de gens qui sont sur le billard chez Dieu. Et Dieu n'a pas fini de... Quand je parle de billard, dans la table d'opération. D'accord, hein? Il n'a pas fini de faire son œuvre.
Il n'a même pas commencé de faire l'opération.
Non. Et ils ont esquivé l'anesthésie. Puis, ils se sont précipités et ils font du bruit un peu partout. Et quand vous examinez ces gens de ministère, vous allez voir, il va y avoir de la légèreté. Même dans la manière de dispenser la parole. Parce que leur vie n'a pas été... n'a pas été travaillé par l'Esprit de Dieu. Parce que quand il aura fini de faire ça et relâche la personne, quand la personne sera en train de rendre ministère, vous ne parlerez pas d'elle, mais vous parlerez de Christ dans cette personne.
C'est vrai. Hein?
D'accord?
Oui.
Donc, exercer l'autorité pour le chrétien là, exercer l'autorité ne signifie pas être autoritaire. C'est dans le monde où on pense que si j'exerce l'autorité, il faut que je sois autoritaire. Dans le royaume de Christ, exercer l'autorité, c'est servir sous l'autorité de Christ. Ça ne veut pas dire dominer sur le peuple de Dieu. Retournez dans Genèse. Dieu a dit à Adam qu'il va dominer sur le reste de la création, mais il n'a pas dit qu'il va dominer sur l'homme. Donc, Christ n'a donné à personne dans son royaume l'autorité de dominer sur le peuple de Dieu. Non, c'est pour cela que le leadership chrétien, c'est le leadership serviteur. Dès que vous voyez quelqu'un qui est en train de menacer les autres, de s'imposer aux gens, de vouloir que ce soit lui sa volonté et non plus la volonté de Dieu révélée dans la parole ou par l'esprit, vous savez que cette personne-là utilise un système de leadership qui est étrange et étranger au royaume de Dieu. Donc là, ça c'est de l'autoritarisme qui est en train d'être manifesté. Mais dans le royaume, c'est servir sous l'autorité de Christ. Ce qu'il dit, c'est ce que tu fais. C'est là où tu sais que tu es un serviteur. Tu sers. Tu ne commandes pas, mais tu sers. Donc, tu vois, ici, l'auteur a compris que si Dieu a permis cette épreuve, il doit y avoir un objectif. Donc, Dieu, aide-moi pour que l'objectif soit atteint. Ce genre de prière-là, parcourez les grands rassemblements où les gens prient. Vous n'entendrez personne prier de cette façon. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire que quand le vent est contraire, c'est le diable. Non. Non. C'est pas tout le temps le diable. Dieu intervient aussi. Dieu éprouve ses enfants. Si vous n'avez pas été éprouvé, où serez-vous actuellement? Depuis CPE, là, où on a appris A, B, C, D, là, si on n'a pas été éprouvé, on ne peut pas monter en classe supérieure. N'est-ce pas? Hein? Donc, c'est la même chose chez Dieu aussi. Vous venez, il va vous éprouver pour vous tester jusqu'à ce que vous-même, vous soyez en mesure de comprendre la portée de l'épreuve. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, pas devant les hommes, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme que Dieu a éprouvé, que Dieu a testé, que Dieu a émondé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Tu vois, si tu n'as pas été éprouvé, quand tu es contrarié, tu vas vouloir te venger. Si tu n'as pas été éprouvé, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu vas sourire, mais à l'intérieur, tu chercheras un moyen pour lui rendre l'appareil. C'est en ce moment qu'on sait que non, malgré les nombres d'années dans l'église, un tel individu n'est pas mûr parce que n'a pas fait un pas de plus avec Christ. Il est resté à l'état de Jésus est mon sauveur, pas mon Seigneur. Plusieurs sont à ce niveau. Ils connaissent que l'agneau. Ils savent pas qu'il est le lion. Donc là, c'est ce qui fait que l'œuvre maintenant est devenue l'œuvre. On n'arrive plus à évoluer. On ne voit plus de disciples parce que beaucoup refusent de devenir disciples. Ils se contentent d'être membres d'une institution religieuse et ils sont juste là. Ils sont fréquents à l'église, mais ils ne laissent pas le Christ vivant en eux pouvoir agir, s'exprimer. Donc ils sont des consommateurs et ils ne sont pas des acteurs pour le compte du royaume de Dieu. Donc là, c'est important de comprendre cela. Si vous êtes chrétien, vous serez éprouvé. Si vous esquivez les épreuves, ça veut dire que vous ne pourrez pas terminer votre course. Ça, là, je peux vous le garantir. Pour tous ceux qui ont esquivé les épreuves, là, d'une manière ou d'une autre, dites-moi, vous voulez aller au bac, et vous esquivez les devoirs. Le jour du bac, là, première journée, vous n'êtes pas allé. Vous débarquez le troisième jour. Vous regardez les gens, vous disparaissez. Et vous venez le cinquième jour, et le jour où on veut proclamer les résultats, toi aussi, tu te présentes pour dire, OK, et mon numéro de table, mon numéro... Non, tu ne seras pas parmi ceux qu'on va appeler. C'est la même chose. Donc, quand Dieu nous éprouve et que nous refusons l'épreuve, nous résistons à l'épreuve, parfois, mais les gens murmurent contre Dieu. Il y a des gens même qui disent des choses qu'on ne peut pas répéter contre Dieu. Qui leur a enseigné ça? C'est ceux qui leur font croire que quand le vent est contraire, c'est le diable. C'est pas le diable tout le temps. Dieu éprouve ses enfants. Le diable tente, c'est vrai, mais Dieu éprouve ses enfants. Un véritable enfant de Dieu doit être éprouvé.
D'accord. Un véritable enfant de Dieu doit être éprouvé. Nous allons dès à présent écouter le deuxième couplet et on va revenir avec le commentaire.
Tu n'es pas sous au prix de la
Voilà, vous venez d'écouter le deuxième couplet. Dans ce deuxième couplet, le compositeur continue par s'adresser à Dieu. Mm-hmm. Et voici ce qu'il lui dit. Il dit ceci, « Tu n'es pas sourd au cri de l'âme en peine. Ton silence n'est pas indifférent. Pour un cœur angoissé, ta réponse est certaine. Mais quand elle n'est pas ce qui... Même quand elle n'est pas ce qu'il attend. » C'est formidable.
Oui.
Il a capitulé, hein.
Parce que tu vois, lors de l'épreuve là, les recours humains vont s'avérer vains. C'est-à-dire que oui, tu sais que quand il y a ceci, il faut prier. Tu pries, il n'y aura rien. Tu jeûnes, il n'y aura rien. Tu appelles d'autres personnes à la rescousse. Les prières de Andil là.
Les amis de Job seront là.
Ah oui, ils vont prier avec toi. Il y a des gens qui vont dire non, moi, laisse-moi ça, je vais à la montagne. Ils vont aller à la montagne, ils vont descendre dans la vallée. Il n'y aura rien du tout. Il n'y aura aucun changement. La situation va aller en s'empirant. Quand ça commence comme ça, il faut savoir que c'est une épreuve. Bien, maintenant, tu vois, dans ce qu'il est en train de dire, Dieu n'est pas sourd au cri de l'âme en peine. D'accord? Ça veut dire quoi? Que Dieu est au courant de ce qui est en train de se passer, des cris que nous poussons, de nos pleurs et autres. Mais pourquoi il ne dit rien? Tu sais, au moment où on veut accomplir une œuvre de finesse, le silence est nécessaire. Vous voyez les grands peintres là, quand ils veulent peindre les tableaux, tout ça là, c'est pas en bavardant qu'ils le font.
C'est dans le silence.
C'est dans le silence. Vous allez dans la forge, hein, quand le forgeron est en train de faire son travail, quelque chose de sérieux là, il parle pas. D'accord? Quand on est en train de fondre l'or pour enlever les scories et tout ça là, en ce moment là, c'est le silence. Dieu aussi, quand il veut travailler ta vie là, tu l'appelles, il ne te dira rien du tout, parce qu'il est occupé, il est en train d'observer les replis de notre âme. Il est en train de voir nos réactions. Il est en train de tester notre capacité à pouvoir accepter ce qu'il est en train de faire pour qu'en fin de compte, son fils puisse devenir plus manifeste en nous et au travers de nous. D'accord? Dans Isaïe 55, 57, verset 15, Dieu dit ceci. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Tu vois? Sa présence est auprès de la personne qui souffre. D'accord? Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, je ne veux pas contester à toujours ni garder une telle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. D'accord? Maintenant, quand on choisit un exemple, nous connaissons tous l'histoire de Jérémie, le jeune prophète, n'est-ce pas? Hein? Un grand intercesseur. J'aurais bien voulu que les grands leaders qu'on a aujourd'hui là puissent être dans la posture de Jérémie. Nos églises seront réveillées. Hein? Jérémie, appelé par Dieu tout jeune, il a rendu le ministère jusqu'au moment où Dieu a commencé par lui dire, écoute, ce peuple parmi lequel tu es là, dis-leur, très bientôt, les Chaldéens vont venir, ils vont détruire ce lieu, on va emporter les gens. Personne ne croyait en cela, parce qu'en ce moment, les gens ne croyaient pas. D'accord? Et dans cette lamentation, chapitre 3, verset 8, il dit ceci, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Quand le temps de l'épreuve arrive, hein, tu vas prier. C'est comme Dieu est absent. Il ne laisse pas accès à ma prière. Verset 44. Tu t'es enveloppé de nuages pour fermer accès à la prière. En ce moment-là, il entendait Dieu lui parler, non? Hein? Il est l'un de ces prophètes de l'Ancien Testament qui avait la capacité de voir et d'entendre. Parce que dans l'Ancien Testament, vous avez des prophètes qui sont des voyants. Et ils ne peuvent que voir spirituellement. Il y a d'autres, ils ne peuvent qu'entendre. Il y a d'autres, ils ont les deux facultés. Lui, il a les deux facultés. Mais ici, il prie maintenant, il se rend compte que l'accès est bloqué. D'accord? Mais dans le verset 48, il dit, des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Il pleure sur l'état du peuple d'Israël. Tu vois? Il a beaucoup pleuré, mais Dieu n'a rien dit. 49. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut des cieux. C'est-à-dire qu'il est là, il pleure devant Dieu. Mais Dieu ne dit rien. Verset 51. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Tu vois tout le processus? Il avait été éprouvé. Malgré tout ce qu'il a fait, Dieu a attendu quand Dieu même choisit d'intervenir. Il est juste venu lui dire, ne crains pas. Donc l'épreuve, c'est une preuve de l'amour de Dieu, mais elle n'est pas facile à accepter pour notre nature déchue. Donc, frères et sœurs, il ne sert à rien de s'auto-flageller en invitant des problèmes dans nos vies. À cause de notre turpitude, il y a des gens qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, et ça leur crée des problèmes, et ils disent que c'est une épreuve. Ce n'est pas une épreuve. Non? La loi dit, Quand tu arrives au feu, tu colores, quand c'est rouge là, tu t'arrêtes. Tu as bien vu que c'est rouge, mais tu t'es avancé. Et on t'a ramassé. Et tu dis vraiment, j'ai été éprouvé aujourd'hui. Hein, jusqu'à ce que le diable est venu marcher sur mes pieds. C'est pas le diable, c'est ta turpitude, ton entêtement, ne pas obéir à ce qui a été dit. Donc, il y a des situations comme ça que les gens invitent eux-mêmes dans leur vie. D'accord? Donc, Dieu ne nous demande pas d'occasionner des épreuves dans nos vies. Si tu veux aller au bac là, il ne sert à rien de te lever un matin pour dire, ok, à partir de ce matin, moi-même là, j'invente le bac. Ok, je fais la première journée, je fais la deuxième. Non, c'est l'autorité compétente qui va décider de quel jour l'examen va commencer. Tu comprends, non? Donc, si tu mets ta bouche dans les affaires de quelqu'un et on te frappe, il ne faut pas dire que c'est une persécution. On t'a frappé parce que tu mérites d'être frappé. Donc, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont besoin d'être enseignés pour qu'ils comprennent quelle est la différence entre une épreuve, une tentation et une attaque. Donc, ceux qui sont devant de la scène, qui rassemblent les gens là, dites-leur la différence qu'il y a entre une épreuve, une tentation et une adversité, pour qu'ils puissent savoir. Sinon, ils vont passer des années à faire du surplace, à vouloir attaquer, alors que l'âme, en ce moment, il n'y a même pas besoin d'attaque. On a besoin de soumission. Pendant l'épreuve là, tu te soumets à Dieu. Si tu t'agites, tu perds du temps. Parce que lui, c'est un souverain. Ce qu'il décide là, il va l'accomplir. Si tu refuses en 5 minutes, ça va prendre 50 ans. Il va l'accomplir. Jacob a menti. Et pendant plus d'une vingtaine d'années, il a joué avec tout le monde. Mais quand Dieu l'a coincé là, plus de 20 ans après, quand Dieu l'a coincé, quelle est la question que Dieu lui a posée? Comment t'appelles-tu? Vous allez dire, mais pourquoi Dieu lui pose la question? Oui, mais parce qu'il avait menti à son père. Comment t'appelles-tu? Jacob dit, maintenant comme tu as accepté que tu es enfin Jacob là, on va changer ton nom. Frère, il y a certaines situations que nous traversons, aussi longtemps que nous n'avouons pas où nous sommes parvenus dans cette situation là. Vous voulons faire quoi? Non, moi, rien ne me branle. Ah, Dieu va t'ébranler. L'écriture dit, il va ébranler les cieux, il va ébranler la terre. Afin que ce qui est inébranlable puisse persister. Donc, ici l'auteur a compris, c'est pour cela qu'elle accepte maintenant. D'accord. Même si ce à quoi je m'attends ne sera pas le résultat de l'épreuve. Voilà ce qu'il dit. Même quand elle n'est pas ce qu'il attend. Quand Dieu interviendra maintenant pour Jérémie, Dieu est juste venu lui dire, ne crains pas. Donc, l'intervention de Dieu peut nous perturber parce que ce n'est pas ce à quoi nous nous attendons. D'accord. Donc, l'épreuve fait partie intégrante de la vie chrétienne. Normal. Si quelqu'un vous dit le contraire, reprenez les 66 livres de la Bible, étudiez calmement et vous allez voir. Sous l'ancienne alliance, sous la nouvelle alliance, un croyant doit être éprouvé.
Je crois dans ta bonté, ta sagesse est divine.
Le couplet 3 nous dit ceci. Seigneur, dans mon épreuve, rends-moi triomphant. Je sais que tu veux le bien de ton enfant. Je sais que tu veux le bien de ton enfant. Dans l'épreuve qu'il traverse, il reconnaît quand même quelque chose. Hein. Il dit, je sais. Il parle de l'Éternel ou bien du Seigneur. Je sais que tu veux le bien de ton enfant. Comment en est-il arrivé à cette conclusion?
Tu sais, la connaissance sur le plan spirituel, c'est une connaissance révélée. Ce n'est pas le fruit d'une analyse basée sur la logique, le raisonnement, la dialectique. Non, ce n'est pas, c'est pas ça. D'accord? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui influe l'esprit de l'homme et l'amène à être maintenant au même diapason que Dieu dans cette situation. Et là, il se rend compte que, ah, ok, maintenant je comprends pourquoi Dieu permet ce qu'il permet. Sous la nouvelle alliance, l'épreuve ou la discipline de Dieu, si vous permettez aussi l'expression, ça a une finalité pour le temps, c'est temporel, et pour l'éternité. Pour le temps d'abord, c'est pour que nous puissions porter plus de fruits. C'est-à-dire que dans ma vie, dans ta vie, lorsque le Seigneur voit que dans tel domaine, tu es en train de porter du fruit, alors que dans l'autre domaine, rien n'est fait pour le moment, donc il va enclencher une œuvre dans l'autre domaine pour t'émonder afin que tu portes plus de fruits. Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. D'accord? Deuxième élément, ça permet notre ressemblance à Christ. La finalité, c'est notre ressemblance à Christ. Mais quel moyen Dieu va utiliser? Les épreuves. Romains chapitre 8, je sais que beaucoup connaissent ce verset, verset 28. Nous savons, ce nous savons là, Paul l'a écrit après avoir reçu révélation. D'accord? Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Beaucoup citent ce verset en ayant en idée les bonnes choses. Quand les choses sont mauvaises là, non, ils sont pas d'accord. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel est l'appel en réalité? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né en plusieurs frères. Maintenant, quelle méthode Dieu va utiliser? D'accord? Verset 35, maintenant, nous parlera de qui nous séparera de l'amour de Christ. Est-ce la tribulation? Donc la tribulation sera utilisée par Dieu pour atteindre cet objectif-là. Est-ce l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Voilà les méthodes que Dieu va utiliser pour que, en fin de compte, vous et moi puissions porter l'image de Jésus-Christ. D'accord? Verset 37 me l'a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour cela que l'auteur dit, rends-moi triomphant. C'est-à-dire que lorsque Dieu permet que la tribulation survienne dans votre vie, si vous vous soumettez à Dieu et qu'il finit de faire d'accomplir son œuvre, vous devenez plus que vainqueur dans cette situation-là. Ainsi de suite. Maintenant, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, vous allez voir que dans toute la liste là, il n'a pas cité le péché, parce que exactement, si à ce niveau-là, le péché nous sépare de l'amour de Dieu. Mais tout ce qu'il a cité là, ces choses-là ne peuvent pas nous séparer. Si nous aimons le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui dira, quoi que vous fassiez, j'ai choisi Jésus, j'irai jusqu'au bout. Ça, c'est la posture de quelqu'un qui est jusqu'au boutiste. Dernier élément maintenant, c'est la gloire et la louange lorsque le Seigneur viendra. C'est-à-dire, tous ceux qui ont été éprouvés là, 1 Pierre chapitre 1, verset 5, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, la finalité des épreuves, c'est que cela nous prépare. Le jour où Christ viendra, tu seras dans la joie, tu oublieras même les épreuves par lesquelles tu es passé, mais ça va transformer, ça apportera un niveau de transformation autre que celui qui n'a pas été éprouvé comme vous l'êtes. C'est pour cela que si on prend l'apôtre Paul, et on prend les apôtres du 21e siècle là, au jour de Christ là, là où Paul se tient, ces gens ne peuvent pas aller là-bas. Parce que Paul a été éprouvé et eux n'ont pas été éprouvés jusqu'à ce niveau-là. Tu vois un peu? Donc là, si nous comprenons la chose de cette façon, lorsque l'épreuve vient, nous devons nous soumettre à Dieu. En sachant qu'il a la puissance et qu'il contrôle. Les gens disent souvent, non, je gère. Tu vas parvenir à un point où tu ne géreras rien du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui gère. Et toi, tu te soumets, même si ça fait mal là. Même les cris que tu pousses là, ça fait partie du programme. Il faut que tu parviennes à un point où tu pousses des cris, que tu pleures. Que le moi là, l'ego qui veut toujours venir au devant, soit brisé pour que Christ soit glorifié dans votre vie.
Très bien. Dans la quatrième et dernière strophe, on va y aller. L'auteur achève son adresse à Dieu en faisant ce constat que la voix de Dieu n'est pas sa voix ou son cœur le pousse. Et il croit que le plan de Dieu n'est pas non plus son plan. N'est-ce pas encore merveilleux qu'un éprouvé puisse parvenir à une telle conclusion?
Oui, ça c'est la maturation ça. Dans ce cas de figure, Dieu est en train d'atteindre son objectif en lui. Parce que maintenant, lui-même découvre la portée de l'épreuve. Et c'est ce que Dieu veut. D'accord? Donc là, le secret du contentement et de la soumission lors de l'épreuve consiste maintenant à regarder et à contempler la croix de Christ. Cela dit que quoi? Lorsque, à cause du Seigneur, je passe par une situation inhabituelle, d'accord? Et que ma chair veut me pousser à dire non, Seigneur, vraiment c'est difficile. Si je focalise mon attention sur la croix, je vois l'expression de son amour. Il a accepté tout ça là pour moi. Ça fera que vous allez voir que d'un seul coup, votre épreuve devient insignifiante. D'accord? Parce que vous avez maintenant vos yeux rivés sur Christ, sur la croix. Et ça vous permet, vous aussi, de savoir que si Christ a pu faire ça, alors c'est possible que je puisse aussi sortir de cette épreuve. Vous savez, souvent quand l'épreuve arrive, vous avez l'impression que l'épreuve est éternelle. Non, l'épreuve n'est pas éternelle. Elle n'est pas interminable. Il y a un monsieur qui a écrit un livre, « Tough time never lasts, but tough people do ». Et là, il a parlé de la dépression qu'il y a eu aux États-Unis et tout le reste. Mais il a dit plein de choses. Quand vous lisez ce livre-là, vous comprenez que les temps difficiles, là, c'est pas des temps qui sont interminables, non. C'est juste pour un moment. D'accord? Donc, si nous acceptons que le Seigneur puisse faire son œuvre en nous, et que l'objectif ultime, c'est que je puisse refléter l'image de Christ Jésus. Là, on va se soumettre à ce que son esprit est en train de faire. Si vous aimez la littérature chrétienne, allez chercher les livres de Richard Wurmbrand, ceux qui avaient été persécutés en Russie, là, lorsque vous allez voir.
Wow.
Vous allez voir. Quand vous lisez ces livres-là, vous comprendrez en même temps que si quelqu'un vous enseigne que non, et tout ce, quand le vent est contraire, c'est le diable, il dit non. Là,
non, mais même Laurent, on va pas aller trop loin. Dans nos églises, quand vous écoutez des témoignages des hommes éprouvés, ça donne la vie. Mais on ne veut pas vivre ce que le monsieur a vécu, ou bien la sœur a vécu. Mais un homme éprouvé qui vous donne un témoignage, tous les gens sont à l'écoute et on veut voir la fin de son témoignage. Et quand il donne la fin du témoignage, les gens applaudissent, les gens louent le Seigneur, on crie gloire à Dieu, mais on ne veut pas être éprouvé.
Oui, bien sûr. Bien sûr, nous voulons tout de Christ, mais
sans l'épreuve.
Non, on l'aime, Jésus là, on l'aime tel qu'il est, mais sans cette couronne d'épines. Donc c'est pour cela que les gens esquivent la croix, esquivent la souffrance pour Christ et veulent se réfugier dans un faux évangile là où on vous dit des choses qui ne sont pas bibliquement soutenables. Oui. Tu vois, prenez les apôtres là, comment ils ont fini? La plupart ont été tués pour Christ. Aujourd'hui là, qui est prêt pour ça? Paul, l'apôtre là, le grand apôtre, il souffrait la faim. Il y a des moments où il n'arrive pas à manger, il ne trouve pas à manger. Et il fait des jeûnes multipliés. Aujourd'hui là, tu peux, même toi-même en temps normal, toi-même, 365 jours, au moins une fois par semaine, tu ne peux pas mortifier ton corps, jeûner pour te rapprocher de Dieu. Donc vous comprenez pourquoi maintenant on se dit, non Dieu vraiment, c'est comme il est loin, il n'est pas loin. Si tu es né de nouveau, il vit en toi. Maintenant, son esprit veut agir et parler au travers de toi. Mais c'est ton moi qui lui fait obstacle. Et c'est pour cela qu'il est obligé d'allumer le feu dans ta vie pour que tu puisses lui permettre enfin de pouvoir faire ce qu'il veut faire. Attends. Donc, les épreuves font partie intégrante de la vie chrétienne.
Merci, l'autre Laurent. Que Dieu te bénisse. Vraiment, nous avons été édifiés. Que le Seigneur nous aide à savoir discerner l'épreuve de la tentation. Et quand c'est une épreuve, que le Seigneur nous donne la grâce vraiment de la supporter jusqu'au bout pour que son résultat soit effectif dans notre vie. On s'arrête là pour ce jour. Que Dieu vous bénisse à l'écoute des programmes de cette station. On se reverra la semaine prochaine si le Seigneur tardait à revenir. Mais en attendant, je vous laisse avec le chant « À tes pieds je m'incline » de la famille Harbour. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette radio. Bye bye.